Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, Michel Crépu, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de la revue des Deux Mondes, revue que vous venez nous présenter chaque mois. Alors Michel, ce mois-ci, eh bien, vous entamez, et je devrais dire plutôt nous allons entamer une marche qui va nous mener aux élections présidentielles dans quelques semaines. La France, la politique, l'économie, le social sont au cœur ce mois-ci de la revue des Deux Mondes.
Voilà, c'est une, effectivement le commencement de ce Tour de France, en quelque sorte, cette Via Dolorosa qui sera peut-être une via de joie, une via jubilata, si je peux dire les choses comme ça, et qui consiste surtout, bien entendu, et on va le faire jusqu'au mois de mai, jusqu'à l'élection, à traverser un peu tous les domaines sensibles du pays. Et donc, ce mois-ci, c'est l'économie, mais aussi un peu la politique. Alors, on a en fait deux volets. Un volet qui est une retranscription de discussions qui ont eu lieu lors du colloque des États de la France au printemps dernier à la Sorbonne, d'une part. Et d'autre part, les actes, en quelque sorte, d'un dîner de la revue qui a rassemblé le temps d'un soir. Olivier Duhamel, Ezra Suleiman, qui est peut-être moins connu, Olivier Duhamel, donc, qui est sociologue, Ezra Suleiman, qui est prof de philosophie politique à Princeton et qui enseigne aussi à Paris, à l'ENA ou à Sciences Po, j'espère ne pas me tromper, et Nicolas Bavré, qui est bien connu de nos auditeurs et de tout le monde, et qui est aujourd'hui un des observateurs, des analystes du politique les plus aigus.
Alors, dans un éditorial précédent, la revue des Deux Mondes, vous expliquiez que la France était en recherche, en tous les cas qu'il existait une interrogation sur l'avenir, et je pense que c'est un des fils rouges de la revue des Deux Mondes, c'est cette interrogation. On est tous d'accord là-dessus, sur le fait qu'on est dans une période vraiment de transition et que nous sortons d'une ère. Alors, Bavrès dit que c'est l'ère du gaullisme et du mitterrandisme, mais bon, les économistes, eux, s'accordent sur bien d'autres points.
Alors, il est absolument évident, et c'est pas un scoop d'ailleurs, qu'on est en effet dans une situation, alors je ne sais pas si c'est une situation de transition, forcément c'est une situation de transition parce que l'histoire continue et donc sauf à ce que l'apocalypse soit programmée pour la semaine prochaine, les choses vont continuer, elles vont continuer mais sous une forme extrêmement différente. Il est certain que en ce qui concerne la scène politique, on arrive à la fin de tout un cycle, de toute une époque. Peut-être le général de Gaulle a été le premier protagoniste et Jacques Chirac le dernier. On est là dans un monde qui est en train de se clore, et ce qui arrive, on a énormément de mal à le dessiner, en tout cas pas à travers un cadre idéologique. Il y a des points de repère idéologiques, le libéralisme en est un, la social-démocratie en est un autre, je pense à Ségolène Royal, puisque l'étiquette de socialiste devient tellement indéchiffrable qu'il vaut peut-être mieux par convenance intellectuelle parler de social-démocratie, même si les choses vont certainement aussi là se complexifier, mais ces cadres-là ne suffisent pas du tout. Enfin, on l'a bien vu encore là avec le discours de Nicolas Sarkozy à la porte de Versailles, faisant aussi bien allusion à Jaurès qu'à des thèmes plus familiers de sa famille politique. Mais on voit bien que les équations à résoudre pour l'avenir vont nécessiter des synthèses différentes, des croisements différents, des paramètres différents. Et personne ne sait très bien en réalité comment tout ça va se faire. Et c'est évidemment ce qu'il y a d'excitant dans la période où on est.
Alors sur le colloque, sur l'état de la France et la table ronde sur l'état économique de la France, à la lecture de ce texte, on s'aperçoit que oui, on est en quête de certitude, il y a un climat de peur, et au fond, ce que l'on observe sur le plan économique, on l'observe également sur le plan politique et social. Il y a un climat de peur, mais c'est un climat de peur qui semble maîtrisé. C'est-à-dire que quand même, Bavrès, quand il utilise le terme de violence au début de son texte, on a l'impression qu'il va un peu loin.
Oui, toute la subtilité...
La possibilité, pardon, de la violence.
Oui. Vous avez raison de souligner ça. c'est un peu toute la subtilité du cas français. On est tenté de l'analyser, ce cas, en termes d'angoisse, de drame, de chute, et peut-être aussi, bien sûr, de relèvement, de résurrection, un schéma en fait assez gaullien d'ailleurs, et qui, après tout, a ses lettres de noblesse dans l'histoire de France. Hein. La France a souvent fonctionné sur ce mode, mais c'est peut-être pas le seul. Et en tout cas, dans le champ économique, on voit bien que il y a en France, en tout cas, il y a on n'arrête pas d'être dans des paradoxes. Bien sûr, oui, il y a des peurs, il y a des frilosités, mais il y a aussi, on le constate, une vigueur des entreprises. Les entreprises françaises, en France, à l'étranger, elles sont loin d'être nulles. Elles sont même pas nulles du tout. Enfin, et alors, on s'aperçoit que finalement, ce qui peut s'observer d'un côté se perd de l'autre, mais pas complètement. Donc, on est là aussi, on est à la recherche d'une synthèse, mais enfin comme si on était un peu à la recherche d'un embrayage, quoi, de quelque chose qui pourrait faire que tous ces éléments qui sont un peu laissés à eux-mêmes, en quelque sorte, puissent fonctionner ensemble. C'est un peu l'enjeu là. C'est un peu comme on n'a pas, contrairement aux pays anglo-saxons qui ont une culture économique, une culture du commerce, du négoce très forte, héritée de tout un background protestant, etc. Enfin, je ne reviens pas là-dessus, ce sont des choses qui ont déjà été soulignées de nombreuses fois. Nous, on n'a pas ça en France, on n'a pas ce substrat, on s'en est même volontairement privé, si on fait un peu d'histoire, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, où toute une frange de la population a émigré dans des pays comme la Hollande ou l'Angleterre. Bon, on ne va pas refaire le film, c'est pas le lieu là maintenant, mais on voit bien ce qui manque actuellement aujourd'hui à la France pour se donner cette possibilité de dynamisme, enfin, qui n'est pas simplement avoir le sourire aux lèvres le matin quand on se lève. Quand on parle de dynamisme, c'est pas simplement ça, avoir l'air bronzé et en forme, c'est pouvoir fonctionner au meilleur de soi-même, et donc que tous les éléments constitutifs d'une dynamique individuelle ou sociale puissent en effet tourner, quoi.
Bavret va vraiment loin, hein. Il dit que cette élection 2007 est la dernière occasion, la dernière chance de moderniser notre pays sans guerre civile.
C'est difficile de lui donner tort, même si on n'est pas obligé d'épouser cette tonalité un peu apocalyptique.
Oui.
Encore une fois, l'histoire va continuer, bon, quoi qu'il en soit. Mais il est certain que si, là, maintenant, on ne saisit pas l'occasion, alors on s'expose quand même à une difficulté. Quoi, s'il ne s'agissait que d'exister pour soi-même, le problème ne se poserait même pas. Mais ce n'est pas du tout le cas. Là, on est dans un contexte d'Union européenne et de grands... Maintenant, vraiment, tout se passe à l'échelle internationale, donc il est totalement exclu de faire comme si on pouvait ignorer cela et se dire nous sommes Français, nous préférons aller à la pêche ou nous préférons jouer aux cartes et grand bien vous fasse pour le reste. Non, c'est un raisonnement absurde et c'était le raisonnement qui a mené au non du référendum. Et si ce non... finalement se répète à l'élection présidentielle sous une autre forme, ce sera en effet, là je ne puis qu'être d'accord avec Bavret, ce sera vraiment une occasion vraiment ratée, quoi.
Alors nous allons, j'allais dire, sortir du débat, si vous le voulez bien, Michel, et peut-être sourire un peu dans ce spectacle politique. Il y a un article magistral, hein, de Marin de Viry, qui n'épargne pas un des candidats, ou plutôt une des candidates. Il s'agit de Ségolène Royal.
Oui, alors Marin, en effet, est en grande forme.
Il fait preuve de bravitude.
Oui, il fait preuve de bravitude. Il s'est beaucoup amusé en lisant le livre de Marc Lambron, Millonne, allons voir si la rose, qui est paru à la fin de l'année dernière là, chez Grasset. Un portrait tout à fait épatant de Ségolène, qui n'est pas simplement simplement un croquis comme ça, mais une, mine de rien, une analyse en profondeur des,
du personnage, du, de sa psychologie.
De sa psychologie, de son parcours, de ce qu'il y a d'assez énigmatique, en définitive, dans, sa, dans, dans son apparition, dans sa personne. Le magnétisme assez étrange qu'elle, qu'elle semble susciter auprès de ses supporters. Voilà, donc Marin de Viry s'est amusé avec tout ça et ça donne en effet une chronique tout à fait amusante.
Alors il y a bien évidemment à travers ce numéro la question de l'opinion, comment réagissent les gens. Je cite Marin de Viry, ce versant naïf de son succès, donc le succès de Ségolène Royal, se double naturellement d'une bonne dose de marketing. Comme l'analyse brillamment Lambron, personne n'est dupe, on sait bien qu'elle ne guérira pas les et cruelle, mais tout le monde a envie d'y croire. Lors d'une précédente, lors d'un précédent éditorial, vous disiez qu'on ne croit plus hein, aujourd'hui aux idéologies, et pourtant, et dire s'il y a bien une chose à laquelle on croit aujourd'hui, c'est le marketing politique.
Oui, et puis le phénomène de la croyance, ça c'est quelque chose que Jean-François Revel, en son temps, avait parfaitement analysé. Il est consubstantiel à la nature humaine. L'être humain ne peut pas ne pas croire à quelque chose. C'est un exploit d'arriver à être athée, comme l'était Revel d'ailleurs, admirablement à sa manière. Mais je crois qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de très vrai, très profond, très juste. Et la situation où on est aujourd'hui, effectivement de déroute des idéologies, de décrédibilisation des idéologies, n'efface pas pour autant ce besoin de croire. Et l'apparition, j'emploie le terme à dessein, dans sa connotation un peu mystique, au second degré naturellement, de Ségolène Royal, révèle cette envie de croire, révèle cette envie de vivre un film, un beau film avec elle. Enfin, je crois que ce qui l'a porté jusqu'à présent, peut-être les choses vont évoluer, on ne sait pas. Ça a l'air d'être un petit... Là, on a l'impression qu'il y a un peu de brouillage sur la ligne, mais... En tout cas, ce qui l'a porté avec beaucoup de force jusqu'à présent, et avec beaucoup de talent de sa part d'ailleurs, c'est quand même qu'elle a épousé, entre guillemets, ce besoin de croire qu'il y a dans la population et qui s'exprime de diverses façons. Et elle est une incarnation peut-être possible. Elle représente pour un certain nombre de gens, et d'une façon tout à fait digne, enfin... On a tout à fait une légitimité évidente à porter cette espérance, si vous voulez, pour employer un mot, pour continuer à employer le vocabulaire religieux. C'est très important tout ça. C'est même le plus important de l'affaire en réalité. Et celui qui l'emportera, celui ou celle qui l'emportera, sera certainement celui qui aura su justement comprendre ça et l'incarner de telle sorte que les gens s'y retrouvent en majorité.
Alors, toujours dans le registre, Michel, du sourire, on retrouve le feuilleton, hein, la rue médiatique, qui, là encore, garde l'accent politique. Mais alors, je vais me permettre de rebondir sur vos allusions religieuses. Très loin de la scène politique, il y a dans la revue des deux mondes deux évocations de la religion. Une première qui est de vous, dans votre journal littéraire, au tout début. Votre journal littéraire que vous présentez, il se situe en fait à Riga, en Lettonie. Alors avant d'évoquer le religieux, et en l'occurrence la Lettonie et votre voyage, je voudrais revenir sur votre journal littéraire. Le journal littéraire, quand est-ce que vous avez décidé de l'écrire et de le présenter à vos lecteurs? Ce sont les circonstances?
Oui et non. C'est-à-dire, il est vrai que, comme lecteur, j'ai toujours aimé beaucoup lire les journaux des auteurs. Je suis un gastronome du journal, intime ou pas intime. J'aime énormément ça. Charles Dubos, Benjamin Constant, etc. Enfin, on pourrait en citer d'autres. Là, pour la revue, en fait, l'idée de tenir un journal est venue pas tout à fait immédiatement, mais comme une réponse technique à un problème que j'avais, c'est-à-dire que la fonction de rédacteur en chef fait qu'on ne peut pas s'occuper uniquement de sa chronique. Et je faisais une chronique au début et j'avais du mal à la faire parce que une chronique, c'est un autre exercice. C'est d'un seul tenant. Il faut vraiment... ça suppose une énergie et un travail que je voyais bien que je ne pouvais pas accomplir correctement. Donc l'idée de tenir un journal m'a paru plus adaptée, si vous voulez, à la situation dans laquelle j'étais. Et petit à petit, j'ai pris goût à cet arrangement technique. vous voyez, enfin, je n'ai pas eu la révélation d'un seul coup dans mon bureau, l'Éternel me disant maintenant tu vas tenir un journal. C'est pas du tout ça. Mais petit à petit, cette façon de faire m'a aussi permis, et ça j'en suis très très heureux, d'évoquer mon expérience quotidienne de la lecture beaucoup mieux que je ne pouvais le faire sous la forme d'une chronique. Parce que dans un journal, vous pouvez évoquer beaucoup de choses très différentes, sans trop vous soucier du lien qu'il peut y avoir entre d'un livre à l'autre. Et dans la vie, c'est comme ça.
Alors, c'est le cas, en fait. Là, vous voyagez en Lettonie, vous êtes à Riga. La dernière fois, vous étiez en Roumanie. Et on vous suit dans la rue, on vous suit dans le bar de l'hôtel, dans le restaurant, dans vos lectures, dans vos rencontres.
Oui, oui, voilà, tout à fait. J'essaie d'être très fidèle à ce rythme-là, si vous voulez, à cette composition qui me paraît mieux épouser le rythme même de l'existence quotidienne que le côté artificiel d'une chronique où on est un petit peu en surplomb, on voit les choses d'en haut. Je préfère voir les choses d'en bas. Et donc, dans une journée, on lit des choses très différentes et je me reproche d'ailleurs de... Enfin, c'est comme ça, mais je lis aussi le journal et je m'aperçois, quand je relis un peu ce que j'ai fait, là, je m'aperçois que la lecture du journal, là, je parle du journal Le Quotidien, Le Figaro ou Libération, ça n'apparaît pas du tout. Or, ça pourrait apparaître puisque ça fait aussi partie de mon expérience de lecture.
Alors, je reviens sur le religieux, qui était le point de départ de cette allusion au journal littéraire. Vous rentrez dans une église orthodoxe, vous regardez l'office et vous voyez cette majesté et vous dites, sensation tout à fait impensable, bien entendu, dans la moindre église catholique de ce côté-ci de l'Europe, l'extravagante misère, on peut dire suicidaire, un cas unique dans l'histoire des religions. A-t-on déjà vu cela, une religion qui se suscite, point d'interrogation, de ce qu'est devenue la liturgie catholique comparée à cette splendeur au quotidien, laquelle a l'air de produire en quelque sorte son microclimat spirituel. Je quitte l'office avant la fin, mais y en a-t-il seulement une?
Voilà. Oui, alors évidemment, on pourra trouver ce constat sévère, mais qui aime bien châtie bien. Je suis catholique, donc je parle là avec l'affection que je peux avoir pour ma propre tradition religieuse. C'est pas parce que j'ai aimé participer à un office orthodoxe à Riga que je vais me convertir à l'orthodoxie, si vous voulez. C'est pas le problème. Mais le problème, en revanche, c'est quand même, en effet, celui que je formule un peu brutalement, là, dans ce passage que vous avez la gentillesse de citer, où je ne peux pas ne pas m'interroger sur l'évolution. Je n'ai aucune sympathie, par ailleurs, de caractère traditionnaliste, et même pire, enfin intégriste. Ce n'est pas du tout mon problème. Mais mon problème, encore une fois, c'est la vie d'un héritage, la vie aujourd'hui d'une tradition qui me paraît extraordinairement abîmée, me paraît extraordinairement ennemie d'elle-même. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre et que j'aimerais beaucoup comprendre. Je le formule en une phrase qui appellerait évidemment des développements, des commentaires. Et je sais bien qu'il y a aujourd'hui dans les églises, en France, en Europe, toutes sortes de gens merveilleux qui ne se reconnaîtraient pas dans ce propos un peu amer, même plus qu'amer, que j'ai. Mais néanmoins, je pense que la question mérite d'être posée. Et l'actualité toute récente polonaise, vous me direz, c'est encore un autre problème, là. Mais me donne à penser qu'il y a du travail.
Alors, dans votre journal littéraire, vous présentez également un auteur qui est peu connu, on a envie de dire malheureusement, parce que c'est un auteur attachant. On s'attache beaucoup à décrire l'horreur de 39-45. On ne parle jamais des origines. Et il y a un homme qui a décrit ses origines. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est Jean de Pange.
Voilà, Jean de Pange, qui est une vieille famille de l'aristocratie lorraine, qui a épousé Pauline de Breuil, qui était en fait une descendante de Madame de Staël. Donc il y a tout un ensemble là qui évoque beaucoup de choses dans la à la fois dans dans l'histoire française, de la noblesse française, mais aussi une histoire européenne, si vous voulez. Et Jean de Pange était très, de par ses origines, très sensible à tout ce qui concernait la frontière avec l'Allemagne. Bien sûr, la question Alsace-Lorraine, parce qu'il a fait la guerre de 14, il a participé activement à la guerre de 14, très courageusement. Et il a été de cette génération donc, qui avait grosso modo 20 ans au moment de la guerre de 14 et qui a suivi ensuite avec beaucoup d'attention et beaucoup d'inquiétude au fur et à mesure que les choses se montraient sous un jour menaçant, bien entendu, toute la montée en puissance du nazisme en Allemagne. Donc son journal, qui a été publié chez Grasset entre 1964 et 1975, retrace, qui va de 1927 à 1939, à l'entrée en guerre, retrace, si vous voulez, les journées de cet homme qui était très religieux. Alors là, ça fait un lien avec ce qu'on disait il y a un instant. Catholique, tout à fait profond, enfin très très proche de Charles Dubos, qui m'est cher et proche de personnalités spirituelles qui vraiment constituent, j'allais dire, son premier entourage. C'est un faux mondain, si vous voulez, parce qu'il est sa situation fait qu'il est très souvent mêlé à des réceptions, des dîners, etc. Mais il en parle toujours avec beaucoup de distance, une mélancolie, un ennui, d'une certaine manière. Il s'aperçoit que c'est pas son affaire d'aller dans tous les cocktails, etc. En même temps, c'est sa vie, donc il y est avec un rien de dandysme, d'ailleurs, qui fait aussi partie du charme du personnage, menant par ailleurs une activité d'historien importante, qu'il avait sa passion, c'était la tradition monarchique française. Donc il a fait des travaux très approfondis sur la tradition du sacre au Moyen-Âge. Il a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Ce sont des ouvrages maintenant complètement oubliés, malheureusement. Et donc il y a chez lui vraiment quotidiennement une passion pour l'histoire, pour la politique et une passion religieuse, une passion mystique, toujours ensemble et qui sont à laquelle il faudrait ajouter une dimension plus très très intime, très personnelle chez lui, de souffrance liée à la mort de son fils. Son fils est mort d'une maladie foudroyante vers l'âge de 15 ans et évidemment ça a été un drame terrible pour lui et pour sa femme. Donc ça revient aussi beaucoup dans son journal, la souffrance de la disparition d'un fils quasi insurmontable et évidemment qui vient heurter de plein fouet sa conviction spirituelle, sa conviction religieuse naturellement.
Alors, il y a bien d'autres lectures. Hein. Je renvoie nos auditeurs. Vous faites notamment la critique du livre de Jérôme Garcin. Il y a bien d'autres critiques hein, dans la revue des Deux Mondes, auxquelles donc je renvoie nos auditeurs. Malheureusement, nous n'avons que peu de temps. Il y a également l'article à mentionner le Nobel de littérature 2004. Hein, Elfriede Jelinek. Il s'agit d'une interview, tout comme une interview du philosophe hein, Lipovetsky.
Qui est sociologue et philosophe. On oui, va dire, oui. Hein. Un peu les deux, quoi.
Eh bien, je renvoie nos auditeurs au dernier numéro de Merci. La Revue des Deux Mondes. Merci beaucoup, Michel. La Revue des Deux Mondes que nos auditeurs peuvent retrouver en kiosque ou dans toutes les librairies, ainsi que sur le site internet revuedesdeuxmondes.fr. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt.